Petit message d'intérêt général avant de commencer l'écoute du podcast. Je me lance dans un nouveau concept. Voilà, je m'étais dit que ce serait sympa aussi de faire des plus petits épisodes, donc vraiment plus petits pour le coup, pour contraster avec les longues discussions qui durent une heure, entre 1 heure et 1h30 à peu près. Je m'étais dit que ce serait sympa d'aborder un sujet précis, de le faire de manière assez concise. Je m'étais dit que ça pourrait en intéresser plus d'un et ce serait peut-être plus facile à consommer aussi, plus rapide. Et puis l'idée, c'est quand même de mettre en avant divers sujets, comme on l'a vu avec le dernier épisode, en tout cas au moment où j'enregistre, sur le module, sur le synthétiseur modulaire, pardon. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse écouter ce contenu qui, ma foi, me paraît très très alléchant. Donc je vous embête pas plus que ça et je vous souhaite une bonne écoute. Ah, merci Timothée d'avoir rendu l'antenne, un vrai régal. Tu nous apportes toujours des informations qui nous plaisent, et ça, c'est l'essentiel. Bref, aujourd'hui, dans cet épisode du bip, parce que j'ai pas trouvé de nom vu que j'enregistre à la suite, comme un cake, on va parler de l'histoire du montage. Alors, petit débrief, petite anecdote un peu marrante. J'avais fait tout un cours, en fait, j'avais écrit un cours pour mon ancien lycée dans lequel j'avais fait une option montage, Saint-Exupéry, RPZ un peu, très rapidement, Mange la Jolie, vous connaissez bien évidemment. Le mot d'ordre. Je voulais faire un petit cours comme ça, je l'avais proposé à mon prof. Bon, il m'avait dit que c'était mort. Donc je m'étais dit que c'était un cours, pourquoi pas capitaliser dessus. Donc je m'étais rapproché d'un petit organisme, enfin, d'un gros organisme de formation qui vend des cours divers et variés sur l'audiovisuel, plein de choses, etc. Bref. Donc je m'étais cassé le cul à en faire une version raccourcie pour qu'au final ces mêmes gens me disent que le sujet avait été déjà fait. Donc bon. Moi-même à court de solutions, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas en parler en podcast? Et de là est venue cette idée de faire un concept un peu plus court, parce que c'est pas un sujet qu'énormément de gens connaissent et dans lequel on peut rentrer dans les détails. Donc on va commencer tout simplement par la petite introduction. Donc si le montage paraît assez accessible aujourd'hui, à travers, je sais pas, YouTube, la pub, la télévision. Et tout ce qui va avec, et bah ça a pas toujours été le cas, hein, parce qu'au tout début du cinéma, au balbutiement de ce genre, la question du découpage, elle se posait pas. Le style était extrêmement théâtral, et la dimension spatio-temporelle, mais surtout temporelle, elle était pas vraiment, était pas présente, en tout cas c'était pas vraiment développée. On le verra un peu après, mais de base, une caméra c'était un outil. C'était pas une manière de faire de l'art en soi. Donc on gardait ce style très théâtre où on posait une scène, il y avait quelque chose qui se passait dedans, mais derrière, il n'y avait pas la volonté de raconter une histoire à travers un quelconque découpage. Et donc si au fil des années, et même des mois, hein, parce que ça allait très très vite au début, la discipline elle a commencé à faire son apparition, c'était vraiment pas pour des questions de narration, mais c'était surtout pour... Dans un souci de trucage en fait, de créer des effets, c'est assez fou à dire, mais la narration au cinéma, à travers le montage, est arrivée après les premiers trucages. Donc on va voir ensemble, très modestement, avec mes petites connaissances, comment d'une fonction gadget, le montage est devenu une discipline indispensable du cinéma, et on retrouve absolument partout maintenant. Et donc là on va repartir à vraiment la base du cinéma avec les premiers appareils. Donc on a le 22 mars 1895, la première sortie au cinéma d'un film, de ce qu'on peut appeler un film. Encore une fois, c'était plus un petit documentaire, on va dire. Film, il y a une notion fiction derrière. Et donc ce film, c'était la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Et ça a été vraiment un marquant, enfin un tournant dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art et du divertissement en général, parce que on se rendait compte que c'était accessible à tous. À l'inverse de ce qu'on appelle les arts nobles, donc par exemple la poésie, la gravure, la musique classique, ça c'est des choses qui sont quand même relativement assez difficiles d'accès quand on n'a pas une formation qui va avec ou un maître à penser ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas du tout mon domaine, mais j'imagine que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir pratiquer. Et là en fait on se rendait compte que le cinéma en tant que tel, ça paraissait plutôt simple en fait, parce que il suffisait d'avoir une caméra. Ensuite, on avait une pellicule, et la pellicule, on pouvait la diffuser. Et les gens étaient vraiment choqués, hein, ce truc de le train qui arrive en gare et les gens qui ont peur, c'était un vrai délire. Genre, c'était la 3D, mais la 3D qui marche, pas la 3D que nous on a eue, où il y avait juste la pub Haribo qui était un peu sensationnelle. Non, non, ça marchait vraiment, et c'était super intéressant. Des grands noms comme Monsieur Edison, très connu pour ses multiples inventions, ils vont s'empresser de créer leur appareil. Et alors lui, c'était, il y avait le kinétographe et le kinétoscope qui commençaient à être qui étaient des vraies références, mais à droite et à gauche, on avait aussi plein d'appareils, parce qu'en fait, c'était un peu la course. Comme à l'époque, tu avais beaucoup d'inventions qui arrivaient au même moment. Par exemple, le téléphone qui a été inventé par Graham Bell, il y en a beaucoup qui disent que justement, il a pompé l'idée à un Italien. Parce qu'en fait, c'est vraiment, ça se joue à peu de choses. Et nous, en France, on est cocorico, on a pas mal d'inventions, mais ça se talonne, en fait. Et du coup, on voit qu'à cette époque, donc le kinétoscope, il me semble que c'est 80... je vais pas dire de la merde, mais il me semble que c'est 97. On peut voir qu'il y a d'autres machines qui, elles, arrivent un peu avant, un peu après. Donc par exemple, là, on a le mutoscope en 1895, on a le vitascope et le projectoscope en 1897. Donc c'est des éléments qui sont, enfin c'est des machines qui sont vraiment, qui ont toutes le même fonctionnement, hein, grossièrement, mais c'est comme plusieurs voitures de différentes marques. Le but du jeu, l'objectif du véhicule, c'est juste d'avancer. Et puis surtout aussi la capacité de la bobine qui nous permettait de projeter la pellicule était quand même relativement basse. On avait très très peu de temps pour diffuser et donc du coup, bah, c'était un film à la suite quoi. Un film après l'autre et même on pouvait pas enregistrer des masses des masses. Et donc comme accessoires intéressants qui vont révolutionner cette utilisation de la caméra, on va avoir déjà Ah, c'est pas facile à dire. L'uniformisation des pellicules avec un format encore inventé par Monsieur Edison, un inventeur de génie. Il y avait une petite team derrière, hein, mais vous savez, c'est les gens de l'ombre, on les oublie toujours. Qui nous a sorti la pellicule 35 mm à 4 perforations. Donc ça, c'était la première invention qui permettait de mettre bien plus de monde. Et la deuxième invention qui était super utile, c'était la boucle LATAM, ou LAVAM, si on dit en anglais, je pense. Qui a significativement augmenté la durée. En tout cas, la capacité des bobines de cinéma, parce que maintenant, on se retrouve avec deux. Je sais pas si vous avez en tête cette image, mais vous savez, ce serait une sorte de... Une bobine en haut et une bobine en bas qui font un système de poulies. Et du coup, on peut mettre beaucoup plus de capacité. Et ça représentait, pour l'époque, je pense qu'une pellicule, ça devait être 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Et d'un coup, on passait à 10-15 minutes de projection, ce qui est largement... plus confortable pour diffuser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je disais au début que c'était un style très théâtral, tout ça, parce qu'on filmait des scènes, mais ça, c'était encore pour les grosses productions. Parce que les salles de cinéma, ça n'existait pas. Hein. La plupart du temps, pour voir des films, on allait à la fête foraine. Vraiment, c'était un peu vu comme une attraction au début, ça a très vite changé, hein. Mais les seuls endroits où on pouvait voir ça, où c'était projeté, c'était dans les fêtes foraines. Et donc, du coup, ce qui était un peu relou pour les forains, c'est que avec ces toute petite, avant qu'il y ait la boucle LATAM, avec ces toutes petites bobines, on devait changer constamment la pellicule. Et donc là, on se retrouve avec une capacité qui est augmentée, et donc du coup, forcément, plus d'espace. Mais en soi, les pellicules étaient les mêmes. Je veux dire, le film qui dure 2-3 minutes, même sur une bobine qui a une capacité de 10-15 minutes, il va falloir quand même changer. Donc ils se sont dit quoi, les forains? Ils se sont dit, bon, la flemme, parce qu'à chaque fois, on doit faire des manipulations, donc on doit faire attendre un peu les gens pour des vidéos de 2-3 minutes. Bon, c'est un peu chiant, quoi, de toutes les 3 minutes devoir changer ça. Et en plus, ça a abîmé la pellicule, hein. Ça, c'est une aparté, mais il y avait certains films qui étaient des bangers de l'époque qui devaient être retournés, en fait, parce que les pellicules, elles avaient été écoulées, et là... Au bout d'un moment, vu que à chaque fois qu'on diffusait un film ou même qu'on le manipulait, et bah la pellicule elle s'abîmait. Donc des fois il fallait le retourner carrément. Vous imaginez, c'est comme si on allait voir, Dune, et qu'au bout de 3000 spectateurs, les pellicules étaient claquos, donc il fallait retourner le film. Bref, c'était un enfer. Donc ils se sont dit quoi? Plutôt qu'à chaque fois faire des manipulations, on va prendre différentes pellicules entre elles et on va les coller. Comme ça, on les met une fois, puis ça défile, voilà, ça fait le truc, ça remplit les 10-15 minutes. Et nous, derrière, on peut soit le remonter, soit en mettre une autre, plutôt qu'à chaque fois changer. Et donc, ce qui peut paraître comme un mouvement d'accessibilité, quoi, juste un mouvement qui permet de se faciliter la vie, et bah, quelque part, on peut considérer ça comme le premier mouvement de montage, quoi. Bah ouais, parce qu'on colle deux rushs entre eux, deux films entre eux. Au final, ça reste une sorte de best-of. Mais c'était la première fois qu'on collait deux scènes à la suite. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, on commence à parler de montage, mais je vous vois venir. Je vois toujours le petit Guronzan qui est au fond de la salle là, et qui me dit « Mais Monsieur Timothée, ce n'est pas vraiment du montage. » Oui, effectivement, ce n'en est pas vraiment. Et le prochain exemple n'est encore une fois pas vraiment du montage, mais là on se rapproche du trucage et vous allez voir pourquoi. Parce que la première vraie utilisation cinématographique, quoique cinématique peut-être ça se dit, elle va avoir lieu dans un film de 1895 de ces jeunes hommes William Hayes et Alfred Clark qui vont avoir comme volonté de montrer l'exécution de Marie, la reine des Écossais. Sauf qu'ils ont une petite couille parce qu'en gros ils veulent faire une décapitation. Mais c'est pas trop crédible quoi, parce qu'on lance la pellicule. Je vous invite toujours, vraiment, là je vous donne une ref, c'est l'exécution de Marie, reine des Écossais. De William Hayes et Alfred Clark, je le répète encore une fois, mais c'est disponible sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller le voir, c'est des petites vues qui durent vraiment moins d'une minute, si je me souviens bien, c'est une minute 15, un truc comme ça. Donc plus d'une minute, ferme ta gueule. Et donc vous pouvez aller voir en live ce que quoi ça représente. Enfin, allez voir maintenant et après revenez et je vous explique comment ils ont fait. Et du coup, ils voulaient une décapitation qui paraissait crédible. Sauf que bah du coup c'est pas trop crédible quoi, parce que pour décapiter quelqu'un sans lui faire mal, et bah t'es obligé de soit faire un mouvement à côté, soit ralentir le temps que la personne, enfin bref c'est un enfer, même là vous avez essayé d'y réfléchir, c'était une galère pas possible. Et donc du coup, pour que ça paraisse crédible, ils se sont dit, mais attends, la machine là, c'est facile en vrai, parce que tu peux l'activer, tu peux la désactiver, quand je parle de la machine, je parle de la caméra. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à filmer, donc le bourreau va pour faire le coup, et avant qu'il se lance, on coupe la machine, on arrête, on fait là, il n'y avait pas de rec ou pas rec, hein. C'était on ou off, vraiment soit c'était allumé, soit c'était éteint, donc voilà, on fait ça, nanana, il lève le bras, il va pour faire le mouvement, on coupe, on remplace l'actrice par un mannequin avec une tête un peu détachable, on relance l'appareil, et boum, là il fait le mouvement et t'as la tête qui tombe, et après... Une fois ça fait, voilà, fin de tournage, tout le monde applaudit, tout le monde rentre chez soi, et eux ils vont au laboratoire, et juste ils reprennent cette technique de forain là, de couper, de mettre un petit coup d'acétone, faire une collure, ça s'appelle une collure, c'est quand on fait un assemblage grâce à de l'acétone. Ils vont déjà en gros il y a une marque noire quand on arrête, hein, parce que l'arrêt est pas immédiat quoi, il faut le temps que la machine s'arrête tout doucement, que là en gros, c'est comme un œil, quoi. Vous savez, si tu le fermes très doucement, ça devient de plus en plus noir. Bref, je vais pas faire le professeur des écoles, mais t'avais une trace noire, quoi, entre le moment où ça s'arrête et le moment où ça reprend. Parce que c'est une pellicule unique, hein, ils ont pas changé de pellicule entre temps. Quoique, ils auraient peut-être pu, mais à mon avis, il y aurait quand même une trace noire à la fin et au début de la prise. Mais bref, ils vont au laboratoire, ils coupent ce passage noir, là, cette sorte de transition au noir, ils collent les deux, et là. On a un effet, bon, ça paraît risible, hein, quand on regarde ça maintenant, hein. Clairement ça paraît un peu ridicule. Mais, force est de constater que ça marche. Ça marche très bien, pour l'époque c'est un truc de ouf. C'est le premier trucage, le premier VFX. Et donc de ça ils vont en être très fiers, et inconsciemment en fait ils vont faire, en tout cas connu, le premier geste de montage connu. Mais bon, on n'est pas encore sûr de la narration là. Ce qui nous intéresse c'est vraiment la narration, c'est le fait de pouvoir mettre une scène à côté d'une autre et de pouvoir se dire, ok là j'ai créé de l'espace, j'ai créé du temps, j'ai créé des émotions, des sentiments, et j'ai créé quelque chose autour de mes personnages. Là, on est vraiment juste sur du VFX pur et dur. VFX pour Guronzan au fond de la salle qui sait pas ce que ça veut dire, c'est Visual Effects. FX, tu le dis en anglais, ça fait FX un peu, donc ça fait Effect. Voilà, c'est des enculés, mais bon, c'est revenu en France, donc on dit des VFX maintenant. Et donc je vais vous introduire un monsieur qui a fait beaucoup pour justement pour toute cette narration et pour le montage en particulier, pour le cinéma mais pour le montage aussi, c'est monsieur George Albert Smith de la Brighton School. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qu'est la Brighton School. Et donc ce mec là, en gros il est frustré, c'est un boug, il est frustré parce que il adore les gros plans, vraiment il kiffe ça. Mais il a un peu le seum parce qu'on peut pas montrer grand chose sur un gros plan, quoi. Comme son nom l'indique, c'est un plan rapproché, donc on manque de recul sur la scène. Et donc lui, ça lui casse un peu les couilles parce qu'il aimerait bien montrer plus de choses. Donc il va se dire, mais putain, c'est con quand même. Là, je vois l'assassinat de la reine d'Écosse, là, putain, ils ont réussi à faire un trucage et tout, ils ont arrêté la caméra. Donc comment je pourrais faire pour utiliser ces gros plans qui, moi, me semblent super kiffants mais en même temps pouvoir raconter une histoire et utiliser d'autres types de plans. Donc il se dit, mais attends, mais flemme, je vais faire un film où je mélange les deux. Donc en 1900, on a la loupe de grand-maman qui sort. C'est le vrai blaze, hein, je vous invite encore une fois à aller voir sur YouTube, c'est assez court et assez génial pour l'époque, pour peu qu'on se remette dans le contexte. Et donc il se dit, en fait je vais alterner le plan moyen, le plan classique, hein, on va dire que ce serait le plan qui te permet de voir tous les personnages, pour schématiser, et le gros plan. Mais ce gros plan, il a une particularité en fait, parce que c'est un point de vue subjectif. Subjectif, c'est quand on se met à la place du personnage. Donc en mélangeant ce gros plan et ce plan moyen, George Albert Smith, pour la première fois, va réussir à spatialiser une scène. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus juste voir une sorte de tableau vivant. On va voir quelque chose sous plusieurs angles. Il va inventer le relief au cinéma, en fait. C'est con, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse en premier. Et ce qui est fascinant avec cette technique, c'est que, en fait, ce principe, il va choquer plein de gens. Les gens vont être en mode « Putain, mais c'est incroyable !» Le mec, il a réussi à mélanger deux trucs en même temps. Et donc, tout le monde va reprendre ce principe. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en gros, là, on a le concept, voilà, de changement de plan, changement de valeur de plan. Sauf qu'en gros, au cinéma, ça passe, mais les mecs, ils flippent tellement qu'on comprenne pas, qu'en gros, à chaque fois, tous les changements d'axe de l'époque, là, pendant ces 2-3 années qui vont suivre ce film, ça va que être des changements d'axe, mais avec un point de vue subjectif. Que ce soit sur un télescope ou un trou de serrure, genre vraiment, en gros, les mecs, ils avaient la technique, ils avaient le cheat code, mais juste, ils ne savaient pas comment bien l'appliquer. Et donc, la dernière pièce du puzzle qui va confirmer la souveraineté du montage, c'est monsieur Lev Kulichov. Et là, j'en vois venir, Guronzan, au fond de la salle, a commencé à réveiller ses capacités, ses neurones, et il s'est dit « Putain, mais je l'avais vu ça dans mon cours de cinéma, l'effet Kulichov, on va y venir. » Et donc, monsieur Kulichov, il est né en 1899 en Russie. Et c'est un peu un prodige, hein, parce qu'il va se lancer très tôt dans le cinéma, et à 20 ans, le bouc devient prof. Donc ça, c'est quand même assez stylé. Il devient prof au cinéma, à l'école de cinéma de Moscou, et aussi théoricien. Il va écrire pas mal de livres. Et donc lui, il est fasciné par le montage, et ça va être le premier vraiment à commencer à écrire des petits bouquins là-dessus. Et à dire à tout le monde, allez frérot, là on a une mine d'or. Là, potentiellement, on peut commencer à théoriser le bail, et tout le monde va le lire, et tout le monde va commencer à faire du cinéma de meilleure qualité. Et donc lui, il va pas vraiment être dans la création de films, lui il va être dans la création d'expériences, voilà. Et donc, ce qu'on appelle l'effet Kulichov, on va y revenir juste après, c'était un peu l'apogée de son travail de théoricien. Mais avant, il a fait 2-3 petits trucs sympas, par exemple, une expérience pour tester l'imaginaire du spectateur, c'est que Kulichov, il se dit, bon, j'ai pas de modèle féminin là, je peux pas filmer une femme en plan large. Comment je peux faire pour créer dans l'esprit du spectateur l'illusion qu'une femme est présente? Donc en gros, il va prendre une femme qui est en train de se maquiller, et il va d'abord filmer le gros plan d'une de ses jambes, puis le gros plan d'un dos, puis une main qui passe sur son visage, puis un bout d'épaule, et il va faire plein de petits plans comme ça, ce qu'on appelle des inserts maintenant, mais avec plusieurs actrices différentes. Et une fois qu'il va coller tous ces éléments en faisant ses petites collures là dans son petit laboratoire, Kulichov il va se rendre compte que ce qu'il avait devant l'objectif de la caméra, c'était pas nécessairement ça qui était le plus important. Parce qu'avec le montage, on pouvait créer littéralement de nulle part des éléments composites qui n'avaient aucune valeur en dehors d'un banc de montage. Cette femme qu'on voit à l'écran n'existe pas, c'est plusieurs femmes, c'est pas une seule personne. Cette main elle peut appartenir à Géraldine. Ce pied à Pablo, à Pedro. Et au final, quand tu mets tous ces éléments à la suite, t'as l'impression que c'est une seule et même personne. Donc ça peut paraître con, mais on avait là déjà le balbutiement de la création qui n'existe pas. Genre vraiment, qu'on peut filmer tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est mis dans le bon sens, ça aura pour valeur uniquement ce que le réalisateur a en tête. Et donc, c'est là qu'on voit qu'un plan à la suite d'un autre peut être bon, mais un plan à la suite d'un plan qui n'a rien à voir peut aussi être totalement débile. Et donc, pour lui, le sens du film, ça réside vraiment dans le montage. Pour lui, avec cette expérience, il se dit « Je suis trop chaud, parce que là, je viens de découvrir qu'en fait, le montage, c'était tout. » Et donc, il va confirmer ce train de pensée avec son expérience la plus célèbre, qui est connue vraiment de partout, qui s'appelle « L'effet Kulichov ». Donc lui, ce qu'il va se dire, en fait, il va essayer de comprendre comment créer une émotion. Il veut prouver à lui-même qu'une émotion peut être détournée de son intention par des éléments externes ou grâce au jeu de l'acteur. Et donc il va faire quoi? Il va prendre un acteur, un bon acteur, un très bon acteur, et il va lui indiquer deux expressions distinctes à jouer. La première, ce sera un homme affamé à qui on apporte une soupe, donc voilà, il y a une idée d'envie, de faim, voilà. Et l'autre, c'est un prisonnier qui serait relâché au bout de 20 ans de prison, quoi. Donc vous voyez que là, on est sur deux émotions quand même qui n'ont rien à voir. Entre un bol de soupe et une peine purgée, c'est pas pareil. Et donc lui, dans son petit banc de montage, enfin, il va filmer ses petites scènes et tout, et là, il va voir que les deux expressions ont sensiblement rien à voir. Il va se retrouver sur son petit banc de montage, et qu'est-ce que va faire le loulou? Il va inverser les expressions. Donc en gros, l'expression de l'acteur, quand il sort de prison, il va la mettre sur la soupe qui vient d'arriver. Et l'expression du boug qui a sa soupe qui arrive, il va la mettre avec le gars qui sort de prison. Et là, en gros, il va se rendre compte que peu importe le jeu, le spectateur, il fait pas la différence. Il fait vraiment pas la différence entre les deux. Ça lui semble pas choquant, en fait, que le mec ait cette expression, parce que il va se dire, mais attends, il vient de sortir de prison, donc forcément, il a cette tête. Il est affamé, donc forcément, il a cette tête. Donc là, on n'est plus sur... Mais encore une fois, comme au théâtre, ou ce truc, vous savez, du mec... C'est très cliché, hein, parce que je suis allé une fois au théâtre dans ma vie quand j'étais en CM2 et c'était pas ouf. C'était vraiment le mec, vous savez, qui rentre dans une pièce, qui voit sa femme en train de le tromper, qui est en mode putain, l'amant de ma femme, tu vois. Genre le gars, il est obligé de crier. Alors que là, au cinéma, on peut passer des émotions de manière beaucoup plus subtile que ça. Et donc, c'est là que Monsieur Kouletchov va nous mettre extrêmement bien et va prouver que le montage est tout aussi important que les autres aspects, que la caméra, que le scénario et tout ça, parce qu'avec le montage, on peut... On n'appelle pas ça, en fait, la troisième écriture pour rien, la troisième réécriture. Il y a la première écriture, c'est le scénario, la deuxième écriture, bah, c'est quand on tourne le film, et la troisième écriture, du coup, la deuxième réécriture, c'est quand on fait le montage. Parce qu'avec les éléments qu'on a, on est à même de pouvoir faire passer n'importe quelle émotion, n'importe quel montage, n'importe quel message, pardon. Et c'est pour ça qu'on dit que les films sont vachement politiques. Parce que quand un film est politique, entre guillemets, c'est pas qu'il soit de gauche ou de droite, c'est qu'il a un message à faire passer. Une idée, par exemple, imaginons sur un film qui se veut féministe, si le montage est raté, l'idée ne va pas du tout passer. Ou carrément, des fois, on peut avoir l'effet inverse. Où ça devient limite parodique, en fait. Ça devient trop gros, pas assez subtil. Et donc, c'est grâce à tous ces hommes qui œuvraient pour le cinéma et Lev Kouletchov, j'espère que je ne l'ai pas appelé Lee depuis le début parce que ça la fout mal. Lev Kouletchov va être un des premiers à se rendre compte que vraiment, 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 le cinéma tient surtout grâce au montage. C'est pas un avis que je partage. Je trouve que c'est très intéressant parce que forcément c'est mon métier, donc j'ai la gueule dedans toute la journée. C'est un ensemble de tout. Mais c'est vrai qu'un mauvais montage peut ruiner un film, tandis qu'une mauvaise image, c'est rattrapable. Le montage, c'est comme le son, en fait. Tu peux pas t'en passer. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de regarder une vidéo YouTube. J'ai un très bon exemple. J'ai un très très bon exemple. Moi, j'aime beaucoup Le Joueur du Grenier. Et pour ceux qui regardaient au tout début, quand il commençait à faire ses vidéos il y a 12-13 ans, il me semble, il avait la caméra de l'époque un peu dégueulasse, avec le son un peu dégueulasse, parce qu'il avait pas trop de moyens. Et à un moment, il y a 4-5 ans, il a fait une sorte d'épisode en mode clin d'œil où il a réutilisé le même matos qu'il utilisait à l'époque. Et donc, c'est la même caméra. Mais c'est pas les mêmes micros. Parce que si on utilise les mêmes micros, ça tue l'expérience. L'image encore, ça va. Parce que par l'image, tu peux donner plein de côtés. Un petit côté nostalgique, en lui donnant des petits effets, tout ça, essayer de l'abîmer un peu. Mais le son est super important, tout comme le montage. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui a une place super importante et qui pourtant est super sous-estimé. Et c'est grâce à ces hommes... Quelque part, Lev Kouletchov est aussi responsable du fait qu'on a des clips de rap aussi fous maintenant, et même des clips en général. Et donc voilà, je voulais mettre un peu en avant le travail de ces hommes qui ne sont pas du tout connus, entre Griffith, Porter, George Albert Smith. Je pense que personne n'était vraiment au courant de ces noms, et donc voilà, c'était ma volonté un peu de perpétuer la tradition et d'essayer de transmettre au maximum. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une matinée... Un très bon mois en soi.